fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
La guerre d'agression des Israélo-Américains contre l'Iran, un vieil état civilisation multiculturelle, démontre qu'il faut au XXIe siècle installer une géopolitique de paix entre les peuples, prenant en compte la diversité des cultures. Il est nécessaire pour cela de se reconnecter à l'âme des peuples. Or, ceux-ci sont aujourd'hui dans une géopolitique de la puissance, coupée de leur inconscient, ce qui explique le déchaînement de la barbarie induit entre autres par le capitalisme utilitaire. Nous évoquons ce passage d'une géopolitique à une géopoétique avec nos invités Luc Biget, symboliste, et Nadine Houtin, pédagogue. Générique.
Nous sommes en guerre.
La guerre mondiale a commencé.
Je vous rappelle, en ce samedi soir, la revue géopolitique profonde, la revue confidentielle, c'est la numéro 33, avec des auteurs que vous connaissez bien, que nous avons en particulier dans les matinales ou dans les plateaux, sur les plateaux du soir, avec Xavier Coquille, avec Consoli, vous avez Laurent Ozon, que vous avez eu cette semaine d'ailleurs un soir avec Mike Borowski, pour retrouver les billets de Frank Pengam, les billets à la fois économiques, il y a de la géopolitique, il y a de la technoscience, et puis aussi même du placement. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Et quand vous êtes membre du club géopolitique profonde comme moi, avec cette petite carte que vous voyez là, vous avez accès à des réductions par exemple sur la boutique de géopolitique profonde. Boutique que vous retrouvez sur le site de GPTV, vous cliquez sur les liens en description et vous accédez à nos produits dérivés. Macron dégage Forcher, ça c'est une édition limitée. Vous avez les mugs GPTV, il ne faut pas avoir peur. Le mug aussi Mike Borowski générique, que vous connaissez bien. Ou encore le fameux Montjoie Saint-Denis à Bala Macronie. Voilà pour les mugs. Je me tourne tout de suite vers mes invités du jour. Luc Biget, donc symboliste, Luc Biget, sage s'il en est dans les sciences humaines, il est docteur en sciences par ailleurs. Luc, bonjour.
Bonjour Nicolas.
On est aujourd'hui à la croisée des chemins. Une géopolitique de la puissance, du retour de la puissance, monde qu'il soit d'ailleurs unipolaire, multipolaire, bipolaire, tout ce que vous voudrez bien, il est violent, il est extrêmement violent, on est dans une espèce de rationalisme instrumental, un capitalisme utilitaire qui pousse les nations les unes contre les autres. Il n'y a pas de prise en compte finalement de l'âme des peuples, de l'inconscient des peuples, et il serait plus qu'urgent de se pencher sur ces sujets pour éviter finalement peut-être la catastrophe finale, Luc.
Oui, je vous parlais de capitalisme utilitaire, je parlerai plutôt de capitalisme prédateur, puisqu'en fait, le problème du capitalisme, c'est un grand sujet, parce que ça remonte en fait à la naissance du protestantisme, si on suit la pensée de Max Weber et tout le désenchantement du monde qui est derrière. Mais disons que le capitaliste considère et justifie le fait que l'autre soit un objet. Et donc, si la nature est un objet, on peut l'exploiter exactement comme on veut. Mais le problème, c'est que d'abord, ce n'est pas avéré que la nature soit un objet. C'est-à-dire que les autres êtres vivants sont des êtres vivants. Donc, on peut penser qu'ils aient une âme, une conscience, en tout cas, une identité, une ontologie. Et d'autre part, cette logique prédatrice amène les différents pays, les différentes nations, à considérer les autres nations elles-mêmes comme des objets. Alors, le nazisme a poussé ça très loin, évidemment, en déshumanisant le juif pour justifier le camp de concentration. Mais on voit qu'aujourd'hui, les juifs font la même chose par rapport à Gaza.
Tout à fait.
Donc, je crois que c'est ce point-là qui est important et qu'il faut questionner. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit dans un monde sujet-objet où l'être humain est au summum de l'évolution et les autres, tout son environnement, font n'est qu'un objet. Ce qui justifie d'ailleurs l'utilisation et l'exploitation du monde. Ou est-ce qu'on vit dans un monde de communauté de conscience ? Et là, je fais référence aux travaux de Philippe Descola, qui montre qu'il y a quatre manières de faire monde. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'une d'entre elles, développée par les Achoars, ce peuple premier d'Amérique du Sud, considère qu'ils vivent dans des communautés de conscience. C'est-à-dire il y a la communauté humaine, certes, mais il y a aussi la communauté des différentes plantes. La rivière a un statut ontologique, c'est-à-dire a une existence en soi. Et donc, quand on vit dans un monde de communauté de conscience, il n'y a plus de prédation. Elle n'est plus justifiée. C'est-à-dire on ne peut pas... La prédation et la violence inter...
L'autre n'est plus objet, il est sujet. Voilà. Donc
ça n'est justifié que parce que l'autre est devenu un objet. Et donc, sinon, on fait quoi ? On établit un dialogue, en réalité, entre les différentes communautés de conscience. On peut parler... Tout le monde parle à son chien ou à son chat, donc tout le monde porte ça en lui. Mais ce n'est pas un système politique. C'est juste dire que chaque individu, évidemment, sait qu'il y a même des gens qui parlent à leur salade, pourquoi pas. Mais non, sérieusement, les plantes sont sensibles, on l'a montré avec certains systèmes de détecteurs physiques. Il y a même un cas judiciaire qui a été résolu en faisant passer le meurtrier devant une plante qui a réagi violemment parce qu'elle avait vu une scène de violence. Donc, c'est contraire à nos logiques, à nos pensées habituelles, à la logique cartésienne et qui est née. Alors, pour moi, le grand virage s'est fait vers 1648, traité de Westphalie, 1648-1650, avec en même temps la naissance et le travail de grands penseurs, hein, comme Newton, comme Galilée, comme Descartes, des gens qui ont développé l'astronomie et la rationalité. Mais justement, ils sont allés sur une voie, alors qui bien sûr est juste, hein, parce que les mathématiques fonctionnent, etc. Mais ils sont allés sur une voie qui a réifié le monde. Et du coup, en voulant sortir du monde magique du Moyen-Âge. Et donc cette perte de contact sensible avec le réel a fait que le réel est devenu un objet d'exploitation. A fait par la suite que les guerres entre les nations sont devenues de pures des boucheries en réalité, puisqu'encore une fois, si l'autre perd son statut de sujet, tout devient possible.
C'est une forme d'arraisonnement utilitaire dont parle, par exemple,
c'est l'expérience de Milgram,
Heidegger, que
vous connaissez, mais oui. Milgram sous caution scientifique, qui a demandé à des sujets, hommes et femmes, de donner des chocs électriques à un certain nombre de patients en leur disant, voilà, sous caution scientifique. Évidemment, c'était des acteurs en blouse blanche. Disaient, si vous voulez guérir ces personnes, il faut leur donner un choc. Et certains ont donné des chocs, c'est des faux chocs, heureusement, mais qui pouvaient être suffisamment intenses pour qu'ils meurent. C'est l'expérience de cette... Alors, j'ai oublié son nom, Marina, qui a fait une espèce de grand spectacle avec... en disant, voilà, vous avez dans la pièce des roses, des pistolets et différents instruments. Je suis un objet, c'est-à-dire je ne réagis pas à ce que... Et tout, vous pouvez tout me faire. Bon, les gens qui ont été là ont commencé à la torturer et elle a failli mourir.
Oui.
L'idée, c'est quoi ? C'est que quand l'autre devient un objet, tout devient possible. L'affaire Epstein, le montre aussi d'une certaine manière. Quand on est dans la toute-puissance, l'autre est réifié.
Ouais.
Et donc, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Donc, ce que nous proposons dans ce colloque du 21 mars...
Alors voilà, vous faites un colloque le 21 mars, l'âme des peuples, de la géopolitique vers une géopoétique. Et c'est un colloque qui est animé donc par le GRAF, dont vous êtes un des cofondateurs, qui, le GRAF, signifie groupe de recherche, âme des peuples et histoire.
Oui, alors, parce qu'il nous a semblé, alors effectivement, en plus, la situation actuelle le montre, qu'on est plutôt au bord du gouffre qu'au bord d'autres choses. Mmh. Donc il faut repenser la géopolitique et les rapports internationaux. Alors, on ne va pas les repenser parce qu'on... en fait, il ne faut pas être spécialiste, il faut simplement développer un autre regard. Celui que j'évoquais tout à l'heure, des communautés de conscience, par exemple. Et puis, ce regard qui fait qu'aussi, si on revient simplement aux nations, les nations, au fond, c'est un peu comme les individus. Ils ont un corps, une psyché et une âme, si on est dans cette logique-là. Donc le corps de la nation, ben, c'est le territoire. Alors le territoire, il est important. Pourquoi il est important ? Parce qu'il est, il donne des informations. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée, d'une certaine manière. Mais on le voit très pratiquement, si on marche sur les terres de Bretagne ou si on est à Paris, c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même énergie du sol. Donc le territoire construit aussi la nation. Le deuxième point, c'est les migrations, c'est-à-dire notamment en France, on voit que c'est un territoire qui a été... c'est pas un territoire de passage, c'est un territoire où les gens s'installent. La notion de douce France, qu'on retrouve déjà dans la chanson de Roland, donc à l'époque de Charlemagne, s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un espace qui a une qualité particulière, qui a une qualité d'accueil. Et puis après, et donc les différentes peuplades qui sont venues ont apporté leur énergie, leur caractère, leur qualité. Il faut rappeler que le mot, si je reste sur la France, le mot franc vient du germanique frei, qui veut dire libre. Le franc est un homme libre par excellence, et c'est un peuple germanique. Donc tous ces éléments font qu'il y a une espèce d'égrégore, d'atmosphère qui se crée chez un peuple. Ouais. En plus, on peut...
Et que vous appellerez âme, après.
Alors, il y a deux âmes, de mon point de vue. Il y a cette âme-là, Platon distinguait l'âme sensible et l'âme spirituelle.
Ouais.
Ça, c'est l'âme sensible, qui est formée par l'histoire, qui est formée par aussi les grandes souffrances, les grandes traversées qu'une nation a faites au travers toutes ses pérégrinations historiques et son lieu géographique, qui est donnée par les symboles récurrents dans l'histoire d'un pays. Et puis, il y a une autre âme, il y a l'âme, on va dire, métaphysique ou spirituelle. Pour la France, on peut l'associer à Marie, par exemple, ou à Saint-Michel,
oui,
l'archange. C'est-à-dire, il y a des grandes forces, ou des champs d'information, des grandes forces spirituelles, on les appelle comme on veut, qui sont en surplomb, d'une certaine manière, aux nations, et qui les guident dans leur destinée, en tout cas dans leur fonction par rapport aux autres nations du globe. Donc en fait, c'est ça qu'on essaie de clarifier, c'est-à-dire c'est à la fois l'inconscient d'un peuple, ses mémoires de souffrance, les symboles qui sont permanents dans cette histoire-là, qui donnent des clés sur les principes qui les animent. Pourquoi ? Parce que ça crée, au fond, si on développe ça pour chaque peuple, ben, c'est comme des individus, c'est-à-dire ça leur permet de dialoguer entre eux plutôt que de se taper sur la figure parce qu'ils ne se comprennent pas l'un l'autre.
Merci Luc. Je me retourne vers notre second invité, Nadine Houtin. Bonjour Nadine.
Bonjour Nicolas, merci de votre invitation.
Alors Nadine, vous êtes aussi une des cofondatrices. Je dis à chaque fois cofondateur puisque vous êtes quatre à l'avoir
cofondé.
Ce GRAF.
Oui.
Donc Luc l'est, vous l'êtes aussi. Une cofondatrice donc du GRAF, je rappelle, groupe de recherche âme des peuples et histoire. Écoutez, il a, je pense, déjà un petit peu balayé le sujet. Mm-hmm. Luc, qu'est-ce que vous auriez envie déjà d'ajouter pour planter le décor ? Et puis après, petit à petit, on rentrera sur certains éléments concrets.
Alors, pour planter le décor, peut-être il faut rappeler la recherche de Luc sur archétypes et histoire. Et Luc, dans sa recherche, dans le livre que vous avez là...
Alors j'ai d'ailleurs, voilà, le volume numéro 2 sur le Haut Empire romain, édition Réenchanter le monde. Hop, voilà. Voilà, donc c'est archétype et histoire. Oui,
voilà.
Vous écoutons. Nadine.
Quand j'ai rencontré Luc et les conclusions de sa recherche, j'ai eu un choc. Alors Luc, bien sûr, travaille au niveau de l'astrologie. J'ai vraiment eu un choc en repérant, grâce à lui, sur 1000 ans, comment les divers événements de l'histoire se coïncide avec, il l'expliquera mieux que moi, avec certaines positions planétaires. Et quand Luc dit que c'est un champ inconscient mis à disposition de l'inconscient des peuples, un champ de force, pardon, mis à la disposition de l'inconscient des peuples, je me suis posé la question, mais comment capter avec plus de finesse cet inconscient et vers quoi nous guide cet inconscient? Qu'est-ce que nous offre la nature et le cosmos pour agir dans l'histoire en harmonie, en alignement avec ce champ de force dont parlait Luc? Et moi-même, mon parcours est très différent de celui de Luc. Oui. Je suis une femme de terrain, j'ai été...
Vous êtes une pédagogue.
Pédagogue avec...
Vous avez travaillé au service de l'enfance.
Voilà, j'ai voulu
ONG,
rencontrer des populations, comme on dit, très en souffrance, très en difficulté. Et le grand tournant, la prise de conscience de ma profession et de mon intérêt pour l'âme des peuples, ce fut au moment de la chute de Berlin, quand je suis partie avec... une grande ONG internationale.
La chute du mur, donc.
Voilà. Et quand j'ai vu à la télévision le traitement des enfants roumains dans les orphelinats,
oui.
J'ai proposé de travailler là-bas. Et j'étais partie un an, et pendant 9 ans, j'ai accompagné les divers pays d'Europe de l'Est, à l'époque on disait d'Europe de l'Est, qui basculait,
Il y a 30 ans, tout ça. Oui.
Voilà, c'était très loin. Mais c'est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a vraiment un lien, une analogie à faire entre cet effondrement d'une matrice qui était la matrice communiste,
oui,
et qui enveloppait les peuples d'Europe de l'Est, enfin les peuples, la psyché des peuples de l'Europe de l'Est, et la matrice dans laquelle nous sommes actuellement.
Qui est en train de s'effondrer de la même façon.
Qui est en train de s'effondrer de la même façon. Et déjà, au moment où s'effondrait le communisme, où on se disait libéré de la dictature communiste matérialiste, et que le grand vent était pour le libéralisme, et déjà, on pressentait que cet équilibre était très fragile et que nous allions traverser, nous-mêmes, en tant que pays occidentaux, le même choc. Alors, il se passe différemment maintenant, mais nous traversons le même choc. Et qu'est-ce que j'ai pu observer là-bas concernant la différenciation de l'âme des peuples et ce nœud conflictuel qui se produit quand nous ne sommes pas dans une attitude d'écoute de la différence de l'autre? Et comment chacun peut s'enfermer et créer du conflit quand on reste sur ses positions sans aller vers la différence de l'autre? Et ce qui m'a frappé aussi, je fais un raccourci, hein, parce que ce travail...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CT&Cs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Était sur un très long terme. Alors, quand je suis arrivé en 92 dans ce pays de la Roumanie et ensuite... dans 11 autres pays d'Europe centrale, le peuple roumain était dans un état d'euphorie, d'exaltation. Ça y est, maintenant nous sommes libres.
Les Ceaușescu.
Nous sommes enfin libres, et ça parlait, ça s'agitait. Et j'ai retrouvé la même excitation, la même euphorie quand on écoutait à la radio le printemps des pays arabes. Il y a une fraternité dans le peuple qui jaillit à ce moment-là, et on est tous unis, il y a l'âme qui s'exprime, qui se libère, et après, les conditions politiques font que, tout doucement, il y a des prises de pouvoir subtiles qui réorganisent et qui pondèrent et qui gouvernent autrement cette grande bouffée de joie et de libération. Ce que j'observais, en termes de connaissance de l'âme de son peuple, puisque un des thèmes sur lequel nous travaillons avec Luc et les autres sur le colloque, c'est « Connais-toi toi-même sur le plan de l'âme de son peuple ».
Alors.
Et ça paraît tellement évident.
Donc se connaître soit à titre individuel.
À titre individuel.
Mais appartenant à un peuple, à une nation, et donc...
Exactement, Nicolas. Et quand on n'est pas conscient à quel point on est conditionné par la matrice culturelle de son peuple, entre soi, on est tous d'accord, on appelle un chat un chat, éduquer, ça veut dire quelque chose, quand on est français, éduquer quand on est roumain ou hongrois, quoique c'est une différence avec le hongrois ou russe, et qu'on a été formé au chant, à l'éducation idéologique de l'éducation de l'homme socialiste à l'époque, c'est très différent, ouais. Éduquer à des propos très différents. Et quand on croise l'autre aussi, et que l'autre nous renvoie « Ah, vous êtes française !»« Ah, la France !» à l'époque. Alors, en 92, à l'époque. « Ah, la France, le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme
oui. !»
Qu'est-ce que ça fait du bien au narcissisme des Français quand bien on sûr. Entend ça. Mais après, quand on rentre dans le détail, puisque nous étions dans un espace de coopération autour d'une formation interculturelle, où il y avait à la fois donc des formateurs de peuples différents, et quand on se met au travail sur un même sujet, on se rend compte que là, il y a de la béance entre nos approches culturelles sur des sujets, sur des valeurs idéologiques comme la liberté, la fraternité, l'économie, le rapport à l'argent. Et c'est un travail qui devient passionnant et pacifiant si nous prenons la peine d'être à l'écoute et d'être, j'ose prononcer, dans l'amour de l'autre peuple. Je crois que le mot amour est très important, et à l'époque, quand j'étais en Roumanie, on était en tant qu'ONG souvent invité à des rencontres avec l'ambassade de France, et un jour, j'ai rencontré quelques grands hommes qui portaient l'esprit de la France et de l'État et du respect de l'État. Et un homme passait à, je ne citerai pas de nom, mais peu importe, allait prendre son poste en tant qu'attaché culturel dans un des pays qui était en guerre, dans le pays des Balkans.
Dans une des ambassades.
Oui, dans une des ambassades, merci. Et je lui dis, vous avez du courage, ça va être difficile, votre travail là-bas. Il me répond avec un calme, madame, quand on n'aime pas l'âme du peuple ou le peuple dans lequel on va, faut pas faire ce métier.
Ah oh bah dites donc, c'est...
Oui, intérieurement, je me suis dit...
J'ai eu de la chance d'être tombé sur ce type d'attaché culturel. Ils ne sont pas tous comme ça.
Oui, mais je tiens à valoriser ceux qui sont comme ça. Il en existe. Et c'est sur les épaules, si je puis dire, de ces êtres-là que se construit la paix. Et ce qui m'a touchée aussi, pendant donc on parlait, on travaillait sur le futur de la Roumanie, le futur de la Russie, le futur des pays de l'Albanie, et tous ces gens qui sortaient de l'étau de ces dictatures communistes étaient pleins d'espoir et d'utopie, peut-être pourriez-vous me dire, par rapport à leur futur. Et ils attendaient, ils idéalisaient la communauté européenne, puisque c'était la communauté européenne qui finançait des programmes pour amorcer le changement vers une transition politique, vers du communisme, vers la démocratie, et vers un régime économique socialiste, vers un régime économique libéral. Donc il y avait un espoir de la part de ces peuples très idéalisé. Et très idéalisé de l'attente qu'ils avaient de l'Union européenne.
Donc, idéalisé, donc déçu probablement.
Quelques années après, on peut dire que quelques-uns ont été déçus. Mais ce qui me touchait aussi, quand je discutais avec eux et quand je voyais les comportements quotidiens par rapport au secret, par rapport... non, Saint-Nadine, il ne faut pas dire ça devant les autorités, parce que ça ne se fait pas. Et puis quand on travaillait avec les autorités locales, qui étaient détentrices de l'autorité du pouvoir central, à cette époque, le fait qu'une ONG vienne, ou que des plateformes d'ONG viennent proposer des modifications dans leur politique, mais c'était inconcevable. Mais la société civile n'a rien à dire. C'est nous qui détenons le pouvoir. Et à cette époque aussi, commençait à monter dans toute l'Europe et dans tout l'Occident, aussi, chez nous en France déjà depuis quelque temps, mais de plus en plus, la l'autonomie des sociétés civiles et la matière dont elles commençaient à se positionner comme acteurs du politique, du gouvernement, enfin de l'État, et comme acteurs, plus modestement, comme interlocuteurs des pouvoirs centraux. Et là, c'était tout un apprentissage aussi, parce que nos amis professionnels, nous, on travaillait avec des professionnels qui, dans un premier temps, travaillaient dans des institutions publiques. Donc, ils dépendaient de l'autorité publique. Et à ce moment-là, ils n'osaient pas apporter leur parole et contredire l'ordre, puisque c'était l'ordre. Et là, nous parlions tout à l'heure du traumatisme des peuples et de la souffrance des peuples. Je me disais souvent, en rentrant de ces réunions, mais je suis dans un peuple dont l'âme est blessée. Et à l'époque, on était en contact souvent avec un être que j'aime beaucoup, qui est comme moi maintenant, qui a pris des cheveux blancs, même s'il ne se voit pas à l'écran. C'était Boris Cyrulnik, qui travaillait beaucoup sur la résilience individuelle, mais qui a beaucoup aussi travaillé sur la résilience de certaines communautés. Et Boris Cyrulnik a une parole de paix, une parole apaisante, et je me suis beaucoup... Nous sommes, à l'époque, l'équipe beaucoup nourrie de ses travaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'était la résilience, non seulement chez un enfant qui était... traumatisés, les tuteurs de résilience qu'on peut leur offrir, mais aussi nous élargissions cette recherche à qu'est-ce qu'est la résilience pour un peuple. Et quand je posais la question, parce qu'on était au courant de choses atroces dans les prisons, comme nous voyons aujourd'hui dans les prisons actuelles et dans les guerres et dans les tortures, la capacité à torturer, elle appartient pas à un peuple. Tous les peuples ont chez eux des hommes et des femmes qui ont cette capacité de torturer. Tu donnais tout à l'heure un exemple, Luc, sur l'objet, une personne qui s'offre en objet et faites ce que vous voulez de moi. Donc c'est vraiment aller chercher, c'est une vraie question que nous nous posons aussi dans notre groupe Recherche sur l'âme des peuples. Où s'origine cette espèce d'une part, de souffrance, de traumatisme, mais de capacité de cruauté. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. La seule réponse que j'ai à ça, c'est celle que je peux apporter d'abord en travaillant sur moi-même, et quand nous travaillons en groupe, c'est comment nous faisons individuellement pour construire, aller chercher la paix en nous, et la fraternité en nous, parce que hors d'état de guerre, quand on voyage à travers les peuples, mais moi je n'ai trouvé que des peuples hospitaliers, que des peuples qui étaient tellement heureux de rencontrer l'étranger, qui nous demandaient, qui nous invitaient à partager un repas, un dîner, une fête. Et quand on marche, quand on vit, quand on danse auprès de ces peuples, des peuples autres que nous, et là, je dis autre que ceux de l'Europe, puisqu'on est quand même très proche, on s'aperçoit que qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas la douceur de vivre, qui n'aime pas la rencontre avec l'autre. Donc, il y a quelque chose qui nous paraît encore aujourd'hui anormal. Comment, alors que tous les peuples ont un désir de paix et ont un désir de bien vivre, d'étudier leur famille et de ne pas souffrir, comment se fait-il que nous sommes aujourd'hui dans cette horreur?
Merci Nadine, là, parce que voilà, on va faire tout de suite une petite pause, si vous le voulez bien, et on se retrouve tout de suite après ça.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.
J'apprends.
Merci, Nadine. Ça a repris.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side.
race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Direct.
Ok.
Et vous continuez à parler.
Alors, une anecdote. Je plaisante.
Non, pas une anecdote, pas du tout. D'abord, la revue Géopolitique Profonde, celle de mars 2026, avec donc une semaine de gratuité, je vous disais, la fin du nouvel ordre mondial. C'est la revue du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner, puisque vous avez justement cette gratuité qui vous permet de regarder, de lire un petit peu, et de voir si ça vous intéresse, et de venir ensuite rejoindre ces milliers d'abonnés de Géopolitique Profonde, le magazine, la revue. Le livre, « Les néoconservateurs, une élite impériale », ça, c'est le livre de Laurent Ozon. Et oui, Géopolitique Profonde est maintenant éditeur et édite ce livre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, je reviens vers vous, Luc Biget, on reviendra sur Nadine après, à condition qu'elle fasse de cours, et qu'on ait, s'il vous plaît, maintenant, parce qu'on a déjà passé une demi-heure, vous avez chacun eu un échange, donc là, j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite, et surtout que vous puissiez échanger en même temps que j'échange avec vous. Cette âme des peuples, imaginons maintenant, Nadine nous a bien expliqué ce que c'était que cette souffrance, est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'un meurtre d'âme? Parce que finalement, ce capitalisme dont vous parlez, qui tend à tout uniformiser, à tout détruire, est-ce que ça peut aller jusqu'à un meurtre d'âme, qui est le meurtre d'ailleurs, et j'en reviens à ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire, et Nadine aussi, c'est-à-dire, c'est à la fois l'âme du peuple, et c'est notre âme à nous aussi, en quelque sorte.
C'est-à-dire, en tant qu'individu, nous baignons dans l'âme du peuple. Juste une petite anecdote, là, du coup. J'étais il y a quelques années à Lisbonne, et chez un éditeur qui voulait traduire l'un de mes livres. Et il m'a dit, à un moment, il n'y a qu'un Français qui peut écrire ça. Et je n'avais pas réalisé qu'effectivement, c'était, il n'y avait que l'esprit français. Du coup, il n'a pas été traduit. Bon, voilà. Donc, mais c'est important, effectivement, de prendre conscience de l'âme du peuple dans lequel on vit, parce que ça permet de la relativiser et pas de la présenter comme une évidence. Aujourd'hui, les Américains sont dans une évidence de toute puissance, mais ils ne questionnent jamais leur nature en tant qu'Américains. Mmh. Donc, c'est un peu ça l'idée de questionner l'âme des peuples. Des peuples. C'était quoi votre question?
En plus de parler, vous n'écoutez pas mes questions, on va avoir du mal aujourd'hui. J'ai du mal.
J'ai une mémoire d'oiseau.
Samedi. Je vais vous parler du meurtre d'âme.
Oui, voilà.
C'est-à-dire est-ce qu'on peut aller jusqu'à la destruction complète de l'identité lorsque on dit, on aime la France, la France, le pays des droits de l'homme. Enfin, quand on voit ce qui est devenu la France aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'âme de la France?
On peut pas.
Je vous pose la question, je poserai la même question à Nadine après.
Je pense pas qu'on puisse tuer une âme, parce que l'âme, c'est une espèce d'éternel qui reste là.
Donc malgré l'uniformisation, malgré la société de consommation, malgré tout ça, quand vous voyez certains villages absolument incroyables, ce que l'on en a fait, dont on a, semble-t-il, presque détruit l'âme. Regardez les plus beaux villages, par exemple.
On a détruit la forme.
La forme, seulement.
Mais on ne peut pas, je veux dire, pourquoi la France et l'Europe aujourd'hui est dépressive? Parce qu'on n'est plus en contact avec notre âme, c'est-à-dire nos valeurs.
D'accord.
Donc je dirais, on ne peut pas détruire une âme. Par contre, on peut détruire le contact qu'un peuple a avec son âme.
D'accord.
Okay. À un moment ou à un autre, ça va forcément ressurgir. C'est-à-dire, il y aura des générations qui vont se lever, qui vont dire, voilà, nous, on est porteurs de telle ou telle valeur, qui sont les valeurs éternelles du pays duquel on parle. Donc je ne suis pas aussi pessimiste, je dis que simplement...
Alors éternel ou le produit de l'histoire? Parce que vous parlez aussi d'une...
Oui, alors
vous avez une âme qui est produit de l'histoire...
C'est une bonne question. C'est-à-dire, la personnalité d'un pays est le produit de l'histoire, et il y a des valeurs éternelles qui sont au-dessus, qui l'organisent d'une certaine manière, un peu comme chez un individu du reste.
Bien. Très bien. Nadine, même question, même promptitude dans la réponse sur le fait de pouvoir perdre son âme, finalement. Ou bien n'est-ce qu'une question de connexion avec l'ombre, avec l'inconscient, avec la souffrance?
Oui,
mais pas seulement, d'ailleurs, la souffrance aussi, ça se fait très bien.
Là, je suis complètement d'accord avec la proposition de Luc. Notre gros problème aujourd'hui est d'être coupé, en tant que peuple, de notre âme. Et aussi, je crois qu'il y a une profonde incompréhension sur le mot puissance qui est balancé aujourd'hui sur tous les écrans de télévision.
Oui.
J'oserais dire qu'il y a un mauvais décodage du langage, pardon, du langage de l'âme. Si on était, si nos gouvernants étaient connectés à leur âme, ils comprendraient que la puissance, elle n'est pas dans la conquête des territoires, mais que la puissance, elle est dans la conquête, si je puis dire, dans sa connexion avec l'âme.
Conquête intérieure.
Conquête intérieure. Et quand on écoute l'âme, l'âme nous dit « Développe ton territoire. Développe le territoire de la conscience commune. » Mais elle ne nous dit pas « Va conquérir le territoire de l'autre. » Et quand on est connecté à l'âme, il n'y a plus de problème de territoire. Donc, c'est la paix. C'est la douceur. Nous avions travaillé à une époque sur la douceur en politique et la puissance de la douceur en politique. C'est une ligne de travail que nous devrions réinterroger. En revanche...
Est-ce que ce n'est pas un peu utopique, la douceur en politique?
Bien sûr, c'est ce qu'on a commencé à se dire. Puis on a commencé à travailler là-dessus. Et on a commencé à essayer d'être doux dans la violence, dans des lieux de violence. Et on s'est rendu compte que ça produisait des effets. Si je vous parle en criant ou si je vous parle tout doucement, alors que vous êtes énervé, vous allez peut-être vous calmer.
Il y a cette expérience qu'il faut rappeler.
Obligé.
Dans les années 90, dans le conflit israélo-arabe, mais bon, ils sont toujours en conflit, donc bon. Il y a un certain nombre de militants qui sont allés sur le territoire d'Israël et de Gaza. Ils avaient une seule consigne, c'est de rester dans la paix intérieure. Et ils ont médité pendant 10, 15, 20 jours, et cette expérience a été reproduite plusieurs fois. Et on a noté qu'à chaque fois qu'ils étaient là, les actes de violence diminuaient. Il y avait moins de meurtres, moins de crimes, moins d'actes barbares, etc. Ça a été publié dans un journal scientifique dont je pourrais vous retrouver le nom. Donc ce qui montre assez bien que lorsqu'on est dans un état intérieur, on change l'environnement extérieur. Et ça a un effet même sur les gens les plus violents. Donc oui, je pense que ce que dit Nadine est assez juste. Après, pour quelqu'un, pour incarner l'âme de la France, je pensais à De Gaulle, qui disait « la France, c'est moi ». Mais en plus d'avoir ce nom dans son patronyme, évidemment, ce qui accentue la chose. En plus, Charles, c'est carolingien, Carolus. Hein. Donc son nom et son prénom, parce que je proposais ici une lecture symbolique, évidemment, lui donnait d'une certaine manière sa destinée, mais... Pourquoi il a accompli sa destinée? Parce qu'il s'est mis en connexion avec l'âme de la France. Et donc, s'il a sauvé la France, entre guillemets, au moment de la libération, il n'a pas été dans la conquête extérieure. Il a juste construit la défense, un système tout le système nucléaire qu'on connaît aujourd'hui.
Oui.
Mais il était pas dans la il était dans la puissance à l'interne, pas dans une puissance à l'externe.
D'où la paix avec l'Allemagne.
D'où la paix avec l'Allemagne, la réconciliation de l'Europe, etc. Oui.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nadine, à ce que vient de dire Luc? Après, j'aurai des questions plus précises à vous poser à l'un et à l'autre.
Alors, pour aller dans le sens de Luc, sur la culture de paix, puisque il y a quand même eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la culture de paix et sur la manière de développer dans les communautés la culture de paix. D'ailleurs, je cite le travail de l'UNESCO sous l'égide de Federico Mayor, qui était directeur général à l'époque, qui a lancé l'idée d'une décennie de la culture de paix et d'une réflexion sur toutes les dimensions qui installaient dans les communautés la culture de paix. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a commencé avec l'équipe, c'est-à-dire Federico Mayor, avec l'équipe avec laquelle il travaillait, à ce que tous les gens de l'équipe s'engagent en leur âme et conscience à installer dans leur quotidien la culture de paix, pour la vivre. Et il y a le champ de l'éducation, la culture de paix qui a été développée, l'égalité économique, l'importance économique, quitter la pauvreté, sinon c'est pas possible. Si chaque personne n'a pas son pain, ce n'est pas possible. Ouais. Il y a aussi la démocratie, le respect des droits humains, l'égalité entre les droits et les femmes, et il y a plein de lignes qui peuvent être développées, mais toutes ces lignes n'ont pas de sens si on, quand on les développe, on n'intègre pas en soi cet espace de culture de paix et d'esprit de paix. Je renvoie la parole à Luc.
Après.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Oui.
Allez-y, Luc.
Bah, la question, c'est, il faut se poser pourquoi ça ne marche pas.
Oui.
Pourquoi ça ne marche pas.
Ah oui, mais alors ça, c'est l'aspect utopie.
Non.
Aussi.
Non, en fait, je veux dire...
Pourquoi ça ne marche pas, justement. Pourquoi ce monde est en guerre. Pourquoi ne l'a-t-il... Pourquoi est-ce qu'il l'a toujours été. C'est sur un autre média, je vous avais posé cette question-là. Le monde a, semble-t-il, toujours été en guerre.
Oui, mais ce que je veux dire...
D'ailleurs, il y a la même racine entre war, var et world, hein, entre le monde et la guerre. C'est, ouais. C'est une racine commune, je crois.
C'est la gestion des puissances, justement. C'est parce que les puissances sont extériorisées au lieu d'être utilisées pour une métamorphose intérieure. Mais ce que je voulais dire, c'est que la paix n'est pas une utopie, la paix est une science. Et si on ne travaille pas, si on ne développe pas cette science, comme on développe la science de la guerre, il y a des...
Comme la polémologie.
Comme la
polémologie. Donc il y a la polémologie, et comment vous appelleriez la science de la paix.
C'est ça.
De la paix.
Et la science de la paix passe par quoi? C'est un vrai travail. Je veux dire, ce n'est pas une utopie en l'air. Donc c'est un vrai travail qui passe par la connaissance de l'âme des peuples, de leur inconscient, de leur souffrance, de leur parcours, de leur originalité, de leur spécificité. On voit aussi que lorsqu'un peuple contacte son âme, il fait des génies créateurs. Regardez en musique. On a pu dire que c'était grâce au traité de Westphalie, donc qui est la naissance des États-nations, qu'on a eu Mozart, qu'on a eu Goethe, qu'on a eu et toute la pensée scientifique française. Donc, il n'y a pas que le côté guerre, en même temps aux nations entre elles. Il y a le côté, lorsqu'une nation est en contact avec son génie créateur, elle devient elle-même créatrice. Donc c'est ça qu'il faut recentrer, parce qu'on est beaucoup trop à l'extérieur.
Alors, une nation créatrice, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Luc? Une nation créatrice, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Pour moi, c'est une nation qui est en contact avec son âme, c'est-à-dire avec ses archétypes, ses valeurs fondatrices. Et à ce moment-là, ces valeurs fondatrices vont la nourrir. Pour moi, c'est une catastrophe d'avoir supprimé la diplomatie française.
Oui.
Parce que la diplomatie fait partie des gènes de la France. De tout temps, je veux dire, on peut remonter au Moyen-Âge.
Finalement, ce qui fait la guerre ou ce qui fait le conflit, c'est la négation de soi et qui est parallèle à la négation de l'autre.
Alors ça, c'est vrai. Et ce qui est derrière, c'est la peur.
C'est-à-dire
Ce qui est derrière, c'est la peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée les nationalismes, le refermement nationaliste, je veux dire, ça c'est l'aspect ombre de l'âme des peuples. C'est la peur de l'étranger.
On rappelle ce que c'est que l'ombre? Dans le vocabulaire jungien.
Oui, alors l'ombre, c'est ce qui n'est pas questionné en réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va ressurgir de l'inconscient sous une forme archaïque et primitive et souvent irrépressible. C'est ça qui crée la violence, du reste. Mais pourquoi il y a la peur? Parce qu'on n'a jamais questionné l'ombre. C'est-à-dire, on aime bien, évidemment, faire du cocorico, montrer ces centaines de diplomaties qui s'appellent des sous-marins, si on est des porte-avions, si on est un Américain. Mais on ne questionne jamais l'ombre d'une nation. Et c'est ça qui nous amène à des conduites irréfléchies, violentes, etc. Sur les autres, justement, parce qu'on va extérioriser la puissance. Mais qu'est-ce qu'on fait de sa puissance? La puissance, ça peut aussi servir à produire de la culture. Et la culture, ça peut servir à comment dirais-je, à modéliser un mode de pensée ou un mode d'être collectif qui permet de recevoir justement le génie créateur. Donc on fait un peu les choses à l'envers, en réalité, aujourd'hui.
Merci Luc.
Ouais, je voudrais revenir sur cette question, pourquoi ça ne marche pas?
Oui.
Alors en donnant deux exemples concrets, là, d'une part l'Inde...
Où ça marche ou là où ça ne marche pas.
Pourquoi, comment ça s'explique que ça ne marche pas?
Allez-y.
Voilà, d'abord, je vais revenir à l'expérience professionnelle, c'était la guerre dans les Balkans, entre les Albanais et les Serbes. C'est une guerre, le conflit,
ouais.
Le début d'un conflit. Et en tant qu'organisation, nous avions décidé, d'ONG, nous avions décidé d'envoyer des soutiens alimentaires aux deux pays.
Ouais.
Je suis partie en Serbie avec des soutiens alimentaires et un débat avec un déjeuner avec le directeur de l'hôpital qui gérait à ce moment-là et qui me dit tout excités. Mais les Albanais sont des menteurs, c'est à cause d'eux qu'il y a du conflit, etc., etc. Et je lui dis, mais et nous, nous commencions en Roumanie à accueillir des réfugiés albanais qui venaient avec leurs enfants et qui nous racontaient les horreurs qu'ils avaient à vivre. Alors, je décontexte tout de suite en disant que l'exemple que je prends en citant la Serbie et l'Albanie, on le retrouve dans tous les autres pays. Il se trouve que c'est celui que j'ai vécu. Et ce directeur d'hôpital était un homme d'une honnêteté, d'une générosité, etc. Et je lui dis, mais monsieur, mais vous savez que nous, on reçoit les enfants. Et ces enfants nous racontent comment les soldats serbes viennent, tuent devant eux leur père, violent leur mère, et voilà. Et qu'est-ce que vous dites de ça ? Nadine, c'est... Alors, il commençait à avoir des larmes dans les yeux. Je me suis dit, ça y est, je l'ai touché, sa sensibilité. Et il me dit, mais Nadine, on peut, vous savez, le Kosovo, c'est le berceau de la civilisation serbe. On ne peut pas lâcher ça. Mm-hmm. Ça fait depuis l'an 1300 à peu près. Et je me dis, mon Dieu, la puissance de l'histoire sur la psyché des générations après d'un peuple. Là, je la voyais, je la touchais du doigt. Et quand même, j'arrive à toucher sa sensibilité en lui racontant l'histoire de ses enfants. Et il revient me chercher à l'hôtel le lendemain matin et me dit, Nadine, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Vous savez, méfiez-vous. Tous les Albanais sont des menteurs.
Ça reprend, ça recommence.
Je rentre en Roumanie et je contacte les psychologues qui travaillaient, et j'arrête tout de suite après.
Je vous en prie, allez-y.
Je contacte
c'est
les
passionnant.
Psychologues qui travaillent avec les enfants. Et il y en a un qui me dit, écoute, c'est incroyable, je travaillais avec une petite fille jolie, gentille, et comme le psychologue ne connaissait que les Roumains, ne connaissait pas la langue albanaise et que la petite fille ne connaissait pas le roumain, ils utilisaient un traducteur. Et les enfants, pour essayer de libérer leur traumatisme, on les fait dessiner. Et la petite fille dessinait, et en même temps, elle chantait une chanson. Et à un moment donné, le psychologue se dit, mais et s'il vous plaît, ô traducteur, traduisez-moi ces paroles. Mmh. Et les paroles de cette petite fille si gentille, c'était, nous allons bientôt tuer les Serbes, etc., etc., etc. 5 ans, 6 ans. Oh. Et après, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ouais. Donc, en réponse concrète, un travail sur les mémoires des peuples. Et comment aujourd'hui, alors là, je pense en termes positifs, tout le travail qui a été fait avec la commission, avec l'apartheid en Afrique du Sud, la commission justice et il y a un nom spécial qui m'échappe, justice et conciliation, justice oui. et réconciliation, vérité exactement, et réconciliation. Et d'autres expériences se sont faites aussi dans les pays en conflit, où avec des volontaires, on travaille, et des gens qui faisaient partie, au Rwanda, souvenez-vous, où les militaires français étaient très... très proche aussi, hein, très impliqué.
C'est absolument terrible.
Très impliqué.
Là, les mémoires des peuples, et des ethnies surtout.
Et comment, alors que des peuples qui se côtoyaient, qui étaient cousins, qui mangeaient ensemble, du jour au lendemain, s'entretuent ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, je rajouterais à ça que au Moyen-Âge, dans cette grande Europe chrétienne, on avait des techniques pour nettoyer l'inconscient collectif ou les mémoires des peuples, ça s'appelait les messes. Les Grecs avaient des techniques pour faire que les âmes des morts ne les embêtent pas, c'était la fête des antestéries. Ils leur donnaient des libations à boire sur le sol, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ça.
Oui.
C'est-à-dire, on n'a plus de technique pour nettoyer l'inconscient collectif, pour le dire en termes un peu modernes.
Oui.
Donc du coup, ça s'accumule, ça devient de plus en plus pesant, et ça finit par exploser.
C'est ça.
Ou de créer de la dépression si ça n'explose pas. Donc je crois que c'est une vraie question. Quel rituel, quelle technique on met en place pour nettoyer l'inconscient collectif des peuples, afin qu'un jour, tout ça parte en vrille.
Et ça passait par le sacré, par le religieux, par la messe, comme vous le dites.
Oui, alors de mon point de vue, ça passe par ce qu'on appelle un peu en général le spirituel, c'est-à-dire ou le travail intérieur. Le travail intérieur étant, au fond, une forme de travail spirituel, s'il est connecté en haut. mais il faut aussi descendre en bas, parfois pour nettoyer ce qui est sous le tapis. Donc je pense que c'est un travail de conscience en réalité. Et la conscience, elle passe par la parole, elle passe par l'échange, etc. Il y a plein de techniques qui existent au Brésil, ou le théâtre de... Comment ça s'appelle le théâtre de Nadine ?
Des opprimés.
Le théâtre des opprimés, par exemple.
Est-ce que vous considérez, par exemple, que le travail a été fait... tiens, on parlait de la France et de l'Allemagne tout à l'heure. Ou bien est-ce que les conflits pourraient ressurgir ? On a l'impression qu'il pourrait ressurgir, ouais. Non ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu, on a des politiques un peu bizarres. Je pense que quand même beaucoup de travail ont été faits. Il a fallu trois guerres en fait, hein, la guerre 70, 14 et 40, pour réconcilier l'Allemagne et la France. Mais on voit ici que, au fond, l'harmonie s'est créée à travers le conflit. Et donc on a un exemple où il y a eu, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu deux personnages extrêmement brillants qui ont permis de se réconcilier malgré la haine entre les peuples. Je parlais de De Gaulle tout à l'heure. Donc c'est possible. Je pense que ça peut durer. Après, nul n'est prophète, hein, mais il me semble quand même que même si ces deux pays ont des structures très différentes, hein, des âmes très différentes, elles sont d'une certaine manière complémentaires. Je crois que c'est plus difficile avec l'Angleterre, en réalité, qu'avec l'Allemagne.
Alors vous avez la même chose entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui.
L'Ukraine et la Russie, je ne sais pas, parce que Kiev a été fondée dans les années 900 à peu près, et c'est le berceau de la Rousse de Kiev, c'est le berceau de la Russie.
Oui. Oui, mais vous avez bien vu qu'entre c'est ce que disait Nadine, le Kosovo est aussi berceau des Serbes. Ça n'a pas empêché, bien au contraire.
C'est justement parce que c'est le berceau de la Russie que c'est compliqué.
Oui.
Parce qu'on n'imagine pas une nation abandonner son territoire originel, qui est un peu son code génétique d'une certaine manière. Donc c'est vrai que, pour moi, personnellement, la guerre Russie-Ukraine, c'est plus une guerre civile, en fait, qu'une guerre internationale,
oui,
qui est soutenue, évidemment, pour des raisons un peu sans doute opportunistes, ou pour des raisons de peur de l'Europe, parce qu'elle a le vieux logiciel de la Russie soviétique. Mais Ukraine veut dire, alors j'ai oublié l'expression, la terminologie exacte, mais la traduction d'Ukraine, ça désigne un espace neutre de rencontre. Donc de ce fait, l'Ukraine, c'est normalement un espace entre l'Orient et l'Occident, en fait, entre la Russie, le Nord et le Sud. Donc ça devrait être un espace neutre qui permet justement de réguler les échanges entre les deux grandes cultures occidentales et l'âme russe. Donc aujourd'hui, on veut mettre des frontières, on veut gagner, etc. C'est un peu contre-productif. Et si on regarde l'histoire, il y a quand même une grande partie de la Russie, de l'Ukraine, qui est ancrée dans la Russie.
Nadine, peut-être une réaction par rapport à ce que l'on vient d'entendre.
Écoutez, moi j'aurais envie de venir maintenant, puisque en effet l'heure tourne, aux qualités porteuses de l'âme de la France.
Oui.
Parce qu'on parle de l'ombre, on peut parler, si on reste dans le champ de l'ombre, on peut parler aussi de cette expérience terrible de l'Inquisition, et qui porte encore dans la mémoire de certains des traces indélébiles.
Mmh.
Mais ce que j'aimerais apporter, moi j'aime toujours avoir le regard de l'autre, c'est-à-dire de l'autre peuple sur la France. Et quand j'interrogeais une amie brésilienne en faisant un rêve parmi d'autres, en disant, ouais, mais ça serait joli de voir comment la beauté est exprimée par tous les pays,
ouais,
et comment pour toi, comment tu exprimes, tu symboliserais la beauté exprimée par la France.
Oui.
Et elle disait, oh, mais c'est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement précis, d'extrêmement précieux aussi. Et ça, c'est pour la question de la beauté. Et pour la langue française, j'écoutais aussi des écrivains qui travaillaient sur la langue française et qui disaient combien l'appropriation de la langue française les avait un peu transformés, quand par exemple on passait du russe à la France, comment la beauté de la langue française était porteuse d'une mélodie qui exprimait le souffle de l'âme française.
Oui.
Alors aussi on peut parler de la construction des cathédrales. On peut parler aussi de la beauté des paysages. Un ami brésilien me disait, mais ce qui est merveilleux en France, et ce qu'on ne retrouve pas dans tous les pays, c'est la diversité des paysages de France. Il y a tout à la fois, la montagne, la mer, la campagne, et la petitesse en quelque sorte de la France par rapport à des grands pays comme la Russie, c'est devoir rassembler sur une même terre une telle diversité de géographie, et nous avons dit tout à l'heure que la géographie, la terre, imprime son âme dans l'âme des peuples qui y vivent. Donc nous avons des richesses et des beautés en France, c'est vraiment important de garder en soi que nous sommes actuellement non pas un peuple complètement déminéralisé, oppressé, mais un peuple qui est porteur de ces beautés-là, de ces gènes, qui furent l'élégance. Quelqu'un me dit...
Je comprends ce que vous dites, Nadine, mais voyez-vous, tout ça, c'est vrai, mais néanmoins, on est en train de le perdre. Or, vous n'allez pas pouvoir me répondre ni l'un ni l'autre en disant « Oui, mais ça, c'est parce qu'on est déconnecté de l'âme du peuple. » Parce que je pense que les Français en ont conscience de ça. Comment expliquer cette éradication complète en tuant l'agriculture, notre paysannerie? On va détruire tout ce que vous venez de dire. Je vous entendais sur les montagnes, sur les campagnes, sur la mer. C'est un jardin, la France. On va détruire ce jardin.
Je voudrais répondre à ça.
Ah ben allez-y, je vous en prie, bien sûr.
Je pense que la Révolution française a fait à la fois une grande libération et un grand dégât.
Oui.
Si l'âme de la France... parce que jusqu'à la Révolution française, l'âme de la France était mystique. Les Templiers, la Sainte Ampoule, etc.
Oui.
Et à partir de la Révolution, l'abbé Bruel a détruit la Sainte Ampoule. Et donc à couper symboliquement et réellement par la suite le fait que le roi de France, même après la Restauration, avec la Restauration, le fait que le roi de France soit en contact avec le sacré et puisse guérir, c'est les fameuses écrouelles. Donc du coup, la France a un problème avec la spiritualité.
Oui.
Un problème avec la mystique.
C'est indéniable.
Or... Et c'est une grosse difficulté, parce qu'en fait, je vais le dire un peu schématiquement, mais comme ça quand même, un paysan qui n'est plus en contact avec la mystique de la terre devient un système industriel, ça devient de la FNSEA. Un guerrier qui n'est plus en contact avec la mystique, c'est-à-dire la mission spirituelle qui le guide, qui le soutient, devient un soudard. Et l'autre qualité de la France, un politique qui n'est comme de Gaulle, lui il était en contact avec la mystique, mais plus maintenant, les chefs d'État aujourd'hui ne le sont plus, et donc ça devient des cyniques et des manipulateurs. Donc on a plus ce
et le mystique se dégrade en politique et le politique en Macron.
Et on peut dire ça comme ça, effectivement. Et le Macron en grand vide qui gesticule. Donc c'est dramatique, mais simplement parce qu'on n'a plus la mystique. Et la mystique, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le contact avec un champ. Alors c'est pas l'amour au sens romantisme, etc. Mais c'est le contact avec un champ de conscience qui crée un sentiment d'unité avec soi-même et avec l'environnement, avec les autres. Et qui va pas devenir ni un soudard, ni un cynique, ni un agent de la FNSEA.
Donc le problème est apparaît avec la Révolution, Luc.
Bah, ça a été détruit avec la Révolution.
Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever? Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boosts and social casino games on tap, this is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Moi, je voudrais parler de poser notre conscience sur tous les gens qui, dans l'ombre, qui ne sont pas portés par les médias publics, œuvrent pour la restauration de cet esprit. Pas seulement de la France, mais de cette connexion avec l'âme du monde, avec l'âme de la terre, et la reconnaissance que tout est conscience, que tout dans la France aussi est conscience, et comment on réapprend à communiquer, comme le faisaient nos peuples, les peuples anciens, nos ancêtres, avec l'âme de notre terre, plutôt que de parler, et l'âme de notre terre. Et il y a, vous savez, depuis des années, il y a des groupes, des communautés qui se regroupent, qui travaillent avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience qui avait été menée du Parlement Loire, où des jeunes, des écologistes, mais qui portent la notion d'une écologie spirituelle, pas d'une écologie matérialiste qui étouffe tout le monde, sont conscients du rôle que joue l'esprit de la Loire, l'esprit de la terre, et essaient de construire des politiques où c'est l'esprit de la Loire qui est directrice de ces communautés. Et je voudrais peut-être juste terminer sur cette expérience des cogis colombiens qui sont souvent invités en France par quelqu'un qui s'appelle Éric Julien et qui a fait une expérience magnifique, qui a mis un groupe de Français, de scientifiques français en face de cogis venus de Colombie pour faire un diagnostic de santé d'un territoire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, alors pour le coup, le champ de connaissance des cultures était confronté et comment les cogis apprenaient en quelque sorte aux Français à écouter la parole d'une rivière, à écouter le vortex là qui parle, qui est étouffé, à écouter la montagne sacrée que vous avez là, mais c'est elle qui commande le territoire. Si vous ne pouvez pas y avoir accès, vous n'avez pas l'âme du territoire. Et enfin, c'est un livre qui s'appelle... Éric Julien a synthétisé l'expérience de façon très intelligente dans ce livre, le Cogi, le chemin des pierres. Et c'est vraiment intéressant de voir, alors, d'une part, comment les Cogi qui ne connaissaient pas le territoire sont arrivés en l'espace de quelques minutes à diagnostiquer les maladies qu'avaient déjà... les problèmes sur le territoire... qu'avaient déjà identifié un certain nombre de scientifiques français, oui. Et comment les scientifiques français n'arrivaient pas à comprendre comment les cogis, qui n'avaient pas d'informations, pas d'actualité, etc., et qui souvent avaient passé des stages d'initiation, des formations initiatiques où ils étaient enfermés dans le noir, dans leur grotte, et qu'ils développaient leur subtilité, la subtilité du corps, les sens du corps, arriver immédiatement dans un lieu à connecter des choses que les scientifiques français mettaient des années sur le plan géologique. Il y a des grandes leçons à apprendre des peuples premiers et restaurer la connexion d'un peuple avec son âme, c'est, tu l'as dit à ta manière Luc, c'est restaurer la connexion d'un peuple avec sa terre et avec la conscience de sa terre. Et avec la sensibilité avec laquelle on sent sa terre.
Ouais,
ouais. Oui, il faut préciser que les cogis, ce n'est pas n'importe quel cogis qui sont venus, c'est les mamous, ce qu'on appelle les mamous, c'est-à-dire des chamans. Mais leur formation, c'est qu'ils sont pris tout petits, ils restent 18 ans dans le noir, dans des grottes, et ils développent effectivement une sensibilité très étonnante au champ invisible, au champ éthérique. Et à partir de là, ils font des diagnostics. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que c'est aussi une autre voie de connaissance que la connaissance scientifique contemporaine, moderne. Et donc,
et puis vous parlez très bien, là vous avez été très complémentaires tous les deux, je vous en félicite. C'est par rapport à la question, vous avez répondu chacun à un certain niveau. Vous sur la révolution qui vient couper, effet, avec l'âme spirituelle. Et vous Nadine, à un niveau encore plus profond sur, alors là vraiment carrément la toponymie, la terre dans ses profondeurs.
Nadine reconstruit ce que j'ai évoqué dans la déconstruction, en montrant cette possibilité de se reconnecter à ce qui est perdu.
Et se reconnecter aussi à son rêve. Et pour terminer avec les Kogi, il disait aux Occidentaux, votre problème, à vous, c'est votre rêve. Changez votre rêve et le monde ira mieux. C'est tout simple. Réapprendre à rêver. Et j'étais beaucoup intéressée à une époque par la sagesse des communautés dites des peuples premiers. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer un être qui continue à travailler, là, qui est vivant, Cacavera, qui est à la fois un pagesse et un sage de la communauté brésilienne, des Tupi-Guarani, et qui nous expliquait l'importance du rêve. C'est puissant, un rêve. C'est partager un rêve et construire en commun un rêve. C'est mobiliser... Je parlais tout à l'heure du souffle derrière la matière.
Oui.
C'est mobiliser le souffle qui est derrière la matière, le souffle de notre âme, pour l'incarner dans la matière d'un rêve, et que ce rêve s'incarne dans le cœur des gens et dans la vie quotidienne. Et à plusieurs reprises, quand j'étudiais des sagesses dites anciennes, il était question de nous pointer du doigt, mais vous êtes... Dans l'actualité actuelle, vous êtes dominé par le rêve qu'on vous impose d'une poignée de l'humanité qui domine la planète. S'il vous plaît, libérez-vous de ce rêve-là et réappropriez-vous votre rêve. Apprenez à rêver ensemble le futur de l'humanité, le futur de votre peuple. Et toi, tu es d'accord avec ça?
On peut exprimer autrement en disant chaque peuple ou chaque espace géographique, en tout cas, plutôt chaque peuple, a son mythe fondateur. Et donc, se réapproprier son rêve, c'est exprimer. Alors, le mythe fondateur, j'entends, si on reste dans la tradition grecque, Prométhée, Icare, Narcisse, Faust, etc., l'Allemagne est faustienne, par exemple. Les États-Unis sont prométhéennes. Donc si on arrive à se réapproprier ce mythe fondateur en le questionnant, évidemment, il ne s'agit pas d'être manipulé par lui comme aujourd'hui aux États-Unis, on retrouve une identité profonde et on lutte contre ce capitalisme prédateur dont on parlait tout à l'heure, qui a tout éradiqué sur son passage. Mais pourquoi il a réussi? Parce qu'il promet la satisfaction immédiate du désir. C'est-à-dire qu'il est dans le très court terme. Mm-hmm. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est là où on porte notre conscience. Donc, si la conscience est portée sur le très court terme, ben, on oublie le moyen et le long terme. Mais les cultures se construit sur le moyen terme et les grandes évolutions de l'humanité sur le long terme. Et donc c'est catastrophique parce qu'on ne pense plus qu'au très court terme parce qu'on veut avoir le dernier téléphone portable. Et ça nous vampirise complètement. Ça vampirise le rêve des peuples en réalité.
Oui, et puis...
Nadine.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Merci. Je voudrais dire qu'il faut qu'on se réapproprie notre véritable puissance. Au lieu de se dire on est impuissant, on n'est pas d'accord avec cette guerre et on est impuissant, prendre conscience que l'on est extrêmement puissant quand on passe de la puissance militaire à la puissance de l'âme et de l'esprit. On vous a parlé tout à l'heure des techniques de méditation, mais les scientifiques aujourd'hui ont vérifié que le cœur, le champ électromagnétique du cœur, a une puissance 100 fois plus importante que, disent-ils, que le champ de la pensée, du mental. Et pourtant,
du mental.
La pensée, l'énergie suit la pensée, dit-on aussi. Et plus l'être qui est mesuré dans son champ électromagnétique a un champ de conscience élevé, plus sa puissance est grande.
Ouais.
Et il est dit aussi dans les études sur la méditation de Maharishi, il suffirait d'1% de l'humanité qui reste en état permanent de haute conscience, d'empathie, de compassion envers l'humanité pour faire tout basculer. Donc, il y a des lieux, il y a des moments...
On parlait de 144 000, c'est ça, dans la Bible.
Je ne sais pas. Enfin, là, ça serait autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations.
C'est le 50e sage.
Oui, on peut... Voilà, on est plus sûr de notre... Quand on parle du 50e sage. Mais à chaque fois qu'on peut, ici et maintenant, peut-être les auditeurs le feront, prendre conscience de la puissance de son cœur, de la puissance de sa capacité à changer le monde quand on est en haute fréquence, c'est mes mots à moi, on est acteur de l'histoire et on peut la changer, même si ça paraît incroyable. Mais il y a une très belle vidéo qui circule, l'insolence des miracles. C'est quelqu'un qui raconte comment chacun a pu à un moment donné, dans l'ordre de l'incroyable, plus que de l'utopie, là, se guérir de façon miraculeuse, ou saigner comme le faisait le Christ, etc. Donc on a une réelle puissance que la civilisation actuelle ne nous éduque pas, n'éduque pas la jeunesse à la développer, mais donc il y a des résistants. Et c'est Stéphane Hessel, je réécoutais une petite interview de lui, donc ce grand diplomate qui a écrit ce petit livre avant de quitter la Terre, Indignez-vous, mais qui a écrit aussi ce petit livre, Engagez-vous, qui disait, mais vous savez, au moment de la résistance, de la vraie résistance qu'il a connue, lui, la majorité des Français n'étaient pas résistants. On était peut-être 10% de la population française à être résistants. Et c'est la puissance de ces 10% qui a fait tout basculer. Donc, nous sommes puissants, et quand nous sommes dans l'amour, nous sommes super puissants.
Message d'espoir pour terminer, Nadine. Merci à tous les deux. Peut-être quelques mots avant de nous quitter sur justement ce colloque du 21 mars, donc c'est un samedi.
À Paris.
Samedi
Paris.
21 mars à Paris, Luc, 26 rue Crussol, dans le 11e espace La Passerelle. La réservation lapasserelle75011@gmail.com, c'est ça ?
C'est ça.
Quelques mots sur le colloque pour terminer.
Oui, alors c'est un peu un commencement et une pierre blanche, c'est-à-dire la question qu'on se pose, qu'on s'est posée et qu'on va développer au colloque, c'est comment explorer l'âme des peuples. Et l'âme, on voit bien, c'est quelque chose d'assez évanescent dans un premier temps. Mais on peut l'explorer à travers, si je prends une image, l'âme, c'est une espèce, c'est une rivière qui parcourt un territoire. Donc on ne peut pas fixer la rivière. Par contre, on peut observer les poissons qui sont dedans, les mouvements, le sol, donc, les algues, etc. Donc c'est en regardant les symboles d'un peuple que l'on peut comprendre la nature de son âme. Donc c'est ça qu'on va développer au colloque, quelles pistes on a pour explorer l'âme des peuples, notamment l'âme de la France, l'accent sera mis l'après-midi sur l'âme de la France, et donc comment aller vers la paix, précisément, dont on parlait. Oui. Si on poursuit ce travail d'une manière plus collective, et si cette première pierre prend, amasse de la mousse, ou plutôt n'amasse pas de mousse en roulant, développer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une science de la paix et non pas uniquement une science de la guerre comme on connaît aujourd'hui.
Nadine, quelques mots aussi peut-être sur ce colloque.
Je crois que c'est un moyen aussi d'expérimenter ensemble la puissance de notre âme et de changer le temps du colloque, en tout cas, l'environnement de guerre en un environnement de paix. Mmh. Et comment Paris, avec ce petit noyau de personnes, va pouvoir respirer un petit peu mieux de lumière. Voilà, donc en venant au colloque, non seulement on prend connaissance du travail qui a été fait, mais on est acteur de paix. Et peut-être que même que je proposerai un petit exercice en ce sens. On n'en a pas encore discuté, mais voilà, où chacun prend conscience de la puissance de son âme, de la puissance de sa paix, et la rayonne sur Paris.
Et la rayonne sur Paris. Vous croyez que Paris en a particulièrement besoin ? Moi, je le pense. Mais
oui, puis en plus, c'est le moment des élections, donc c'est le moment où jamais d'orienter son âme. Non, Paris en a besoin, mais Paris, il est dit que dans ses prophéties, c'est une ville lumière qui un jour rayonnera. Oui,
mais lumière, peut-être. Lumière du jour ou lumière de la nuit? lumière
d'amour.
Urbaine.
Lumière d'amour. Regardez comment l'incendie de la cathédrale de Paris a touché le monde entier.
C'est une destruction.
Pardon?
C'est une destruction.
Alors,
c'est un flambeau, mais il est...
C'est une métamorphose. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses, des vieilles mémoires qui devaient être nettoyées aussi et qu'il a fallu les réanimer quelque chose. Je ne sais pas. Ou alors c'est effectivement le symbole. C'est intéressant de voir, entre autres, que y a deux taux, vous savez, il y a toujours deux cloches et elles n'ont pas flanché. L'une d'elles s'appelle Emmanuel. Elle a tremblé, mais elle n'a pas flanché.
Ouais. Emmanuel, oui, c'est un nom
donc,
du sauveur.
Effectivement, mais... il a tremblé.
Justement, je pensais avoir terminé cette émission, mais je vais vous relancer sur une question sur l'âme de Paris. Est-ce que vous croyez que... c'est polémique, c'est sciemment. On va commencer par Nadine cette fois-ci. Est-ce que vous croyez que... vous qui parlez en effet très joliment de faire rayonner cette paix et cet amour par ce petit colloque, le 21 mars, pensez-vous que... c'est le meilleur de l'âme de Paris qui s'est exprimé avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024.
Moi, je
pense pas, mais bon.
Oui. Alors,
vous indiquer non pas ce qu'il faut répondre, mais ce qui serait moi ma réponse.
Oui. J'étais dans un premier temps, j'ai écouté et j'ai essayé de comprendre. J'ai pas été à me dire. Alors, j'écoutais des commentaires, oh c'est terrible, etc. Et je me suis dit, mais comment ceci a été est installé. J'ai une hypothèse. Alors, il y a deux hypothèses possibles.
Oui.
Ça a été préparé et manipulé à l'avance. Ça, c'est, on peut dire ça. Mais il y a aussi une hypothèse qui est un concours de circonstances. La pluie, est-ce qu'on peut comme ça préparer à l'avance la pluie, qui a fait que, alors, avec mes mots à moi, l'univers a organisé cette mise en scène. Et après, plutôt que de dire, c'est mal ou c'est pas bien, j'essaie de me poser la question de façon positive. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet enseignement, de cette histoire, où la laïcité et le pouvoir temporel s'est introduit dans cette église.
C'est la réouverture de Notre-Dame aussi.
Oui. C'est pas à ça que vous faisiez...
Je parlais de la cérémonie d'ouverture des JO.
Vous voyez, j'ai pas du tout entendu, j'étais branchée sur Notre-Dame. Non, alors là, je suis catégorique.
Oui.
Là, je suis catégorique. J'ai été horrifiée.
Ah oui, voilà.
J'ai été horrifiée. Et toi, Luc?
Moi, j'ai pas compris. Je trouve que c'est le... Alors, si on veut l'analyser, je dirais que c'est l'aspect ombre de l'art qui ressurgit,
oui,
déconnecté de tout sens mystique et spirituel, et même peut-être à un certain moment inversé. Donc il y a quelque chose d'un peu, entre guillemets, diabolique.
Et ça, vous partagez ce point de vue?
Oui.
Donc c'est pas ça Paris, et bien sûr, c'est pas ces énergies très basses qui vont résonner le 21 mars. Oui, Nadine?
Non, certainement pas.
Bien sûr.
On va explorer des pistes, au contraire, de rédemption, si je puis dire. C'est-à-dire comment... retourner l'ombre pour la transformer en processus d'unification et de paix.
Vous vouliez ajouter quelque chose à dire, vous...
Oui, non, mais les Jeux Olympiques ne sont pas suffisamment importants pour en parler. Non, je préfère garder la note de la beauté de la France.
Oui.
Et comment on accompagne la floraison de nouveau de cette beauté dans des formes nouvelles. Il n'est pas question de répéter le passé, mais... ce souffle de beauté et de diversité dont est porteur la France, c'est vraiment important. Cette élégance à la fois de corps et d'âme qu'à une époque, et la courtoisie qu'à une époque la France portait, il faut la réapprendre à nos jeunesses, si je puis dire. Voilà.
Bon, eh bien, merci à tous les deux. J'ai trouvé que cet échange... était tout à fait ce que je souhaitais, voyez. Je vous rassure
merci.
Tout de suite
merci.
Sur cette seconde partie magnifique. Bravo, merci.
Merci à,
merci à vous.
Voilà, et donc je rappelle ce colloque, le 21 mars, espace La Passerelle, 26 rue Crussol, dans le 11e, 21 mars. C'est un colloque qui est animé par le GRAF, c'est-à-dire Groupe de Recherche Âme des Peuples et Histoire, et la réservation. Chers auditeurs, si vous voulez y participer, il y a encore des places. La Passerelle, en un seul mot, 75011@gmail.com. Merci à tous les deux.
Merci Nicolas.
Merci.
Je rappelle la revue géopolitique profonde, la fin du nouvel ordre mondial. Alors quel nouvel ordre? Pour quel nouvel ordre finalement? C'est la question qu'on peut se poser. Vous avez aussi un billet de François Martin qui nous parle des États-Unis dans cette revue confidentielle. Vous voyez, c'est de multiples intérêts, la revue confidentielle. Venez nous rejoindre. Vous aurez ainsi cette petite carte, ce précieux sésame qui vous donnera des réductions par exemple pour les produits dérivés. Vous allez sur le site des Géopolitiques Profondes, vous cliquez sur les liens en description et vous accédez à notre boutique. Et à notre boutique, vous avez tous les produits dérivés, les mugs, les t-shirts Macron dégage, il ne faut pas avoir peur, et tous ces produits dérivés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des photos ensuite, après vous avoir acquis ces différents articles, ça nous fera très plaisir. Je vous souhaite un excellent samedi soir et je vous dis à demain.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21+. Sponsored by Chumba Casino.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.